le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Bien, nous parlons à présent de la situation de l'enseignement technique et la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Eh bien, vous savez, l'importance de la formation technique et professionnelle pour le développement et la croissance économique d'une nation n'est plus à démontrer. Cependant, à RDC, ces filières sont souvent dénigrées, négligées, par exemple... S'il faut aller prendre la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la mécanique auto, etc., ça n'intéresse pas de nombreux jeunes. En outre, certains pensent que ce sont des formations de bas étage réservées aux enfants moins performants. Alors, quel état des lieux nous pouvons faire aujourd'hui de la situation de l'enseignement technique et la formation professionnelle en République démocratique du Congo? On en parle avec notre invité, Monsieur Olivier Bangala Bolimaka, directeur général du programme intégré de l'enseignement technique et la formation professionnelle en Afrique centrale francophone, qui a son institution avait d'ailleurs mené une enquête là-dessus. Monsieur Olivier, encore une fois, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Bien. Alors, la première question, de savoir la formation technique et professionnelle. C'est quoi? De quoi s'agit-il?
Merci, messieurs les journalistes, pour cette question.
Merci de vous éloigner. Pertinent. Merci, monsieur Olivier. Veuillez vous éloigner de votre radio parce qu'on entend, on a les retours à l'antenne. Soit vous pouvez réduire sensiblement le volume, vous allez sur la partie de votre téléphone.
Merci, messieurs les journalistes.
Allez-y.
Non,
on
entend. Donc, j'ai dit vous.
On écoute toujours votre radio. Vous êtes toujours à côté de la radio. Merci de vous éloigner de votre radio, monsieur Olivier.
Merci, monsieur le journaliste, donc, pour cette question si pertinente, que j'aimerais la reformuler de la manière suivante. Qu'est-ce qu'on attend par l'enseignement technique et la formation professionnelle? Il est à signaler que l'enseignement technique et la formation professionnelle est un domaine complexe et aux multiples facettes. Ainsi, selon l'UNESCO et le Bureau international du travail, l'enseignement technique et la formation professionnelle font référence au processus d'enseignement qui inclut, en plus de l'acquisition des compétences pratiques, l'acquisition des compréhensions et des savoirs liés aux matières dans les différents secteurs de l'économie et de la vie sociale. Donc, en plus des connaissances et aptitudes techniques, l'accent est plus mis sur les compétences plus douces telles que la communication, la négociation et le travail en équipe. Et ce type de formation est dispensé dans des institutions d'enseignement public ou privé ou sous d'autres formes d'enseignement formel ou non formel.
Par exemple, à l'INPP, c'est là où on retrouve ce genre de formation.
Il y a l'INPP, effectivement. Il y a beaucoup de centres non occupés partout à travers le pays.
Bien, et là-bas, on apprend quoi, généralement? C'est la maçonnerie, la menuiserie et autres.
Il y a différentes filières qui sont organisées dans les différents centres de formation professionnelle. Ça dépend d'un centre à un autre.
Vous pouvez citer quelques filières.
Oui. Oui, il y a par exemple la plomberie, il y a la maçonnerie, il y a la coupe et couture, il y a l'électricité, etc. Et ouais. Ces formations sont offertes dans des structures privées ou publiques d'enseignement professionnel et technique.
Mais monsieur Olivier, pourquoi ce type de formation semble être négligé dans notre pays? Tout ce qui est, vous avez cité, coupé, couture, plomberie, maçonnerie, etc., menuiserie, pourquoi ce type de formation, c'est négligé dans notre pays?
En fait, en RDC, quand on parle de l'enseignement technique et formation professionnelle, messieurs les journalistes, on l'assimile à l'enseignement de bas étage, comme vous avez dit lors de votre introduction. Mmh. On y colle des stéréotypes dénigrants, limitant parfois notre réflexion. Donc, on réserve cet ordre d'enseignement aux cordonniers, ou bien que nous portons tous des chaussures, messieurs les journalistes, aux menuisiers, ou bien que nous nous asseyons tous sur des chaises et meublons nos maisons. L'enseignement technique et formation professionnelle en RDC est encore perçu par la société congolaise dans sa majorité comme un enseignement ou une formation de seconde chance réservée à ceux qui ne parviennent pas à avoir un cursus général brillant.
Ceux qui n'arrivent pas à aller à aller à l'université.
Effectivement, soit des filles et mères ayant échoué dans le mariage et les parents décident en fait de lui envoyer faire une formation coupe et couture. Donc c'est un type de formation réservé aux délaissés pour compte d'enseignement général. Ce sont ainsi les élèves en difficulté scolaire qui sont régulièrement orientés vers les filières techniques et professionnelles. Donc concrètement c'est un peu ça.
Donc
Donc c'est un peu ça, ce qui semble être le fait que l'enseignement professionnel soit négligé dans notre pays.
Voilà, c'est négligé dans notre pays. Et pourtant, on dit que ça contribue énormément à l'économie d'un pays.
Tout à fait, monsieur le journaliste. Le secteur d'enseignement professionnel et technique, ça doit être un vecteur de croissance économique d'une nation.
Bien. Alors, quels sont les freins à la formation technique, à l'enseignement technique et à la formation professionnelle? Vous avez mené une enquête là-dessus. Qu'est-ce que vous avez identifié comme freins ou problèmes dans les secteurs?
Oui, messieurs les journalistes, dans notre pays, donc, le secteur de la formation professionnelle, comme je venais de le dire, doit être un vecteur porteur de croissance économique. Et il y a beaucoup de freins qui l'entravent. Et ces freins sont connus lors de notre étude que nous venons de mener récemment. Nous avons recensé un certain nombre de freins que nous cesserons de les répéter. Et c'est ici l'occasion pour nos autorités d'intervenir pour lever ces freins. Première catégorie de ces freins, c'est d'ordre institutionnel relatif à la mise en place, à la représentativité, au fonctionnement des cadres, instances et dispositifs juridiques et réglementaires, de pilotage et coordination.
Alors, monsieur Olivier, évoque donc. Alors, monsieur Olivier, en des termes beaucoup plus simples, qu'est-ce que vous voulez dire? Quels sont les freins à l'enseignement technique? C'est d'abord la loi. Il n'y a pas de loi il n'y a pas une loi qui gère les secteurs.
Vous savez, messieurs les journalistes, le secteur de l'enseignement technique et professionnel dans notre pays est géré par beaucoup de ministères. Il y a le ministère de la formation professionnelle récemment créé, il y a le ministère de l'enseignement technique, il y a le ministère des affaires sociales et affaires humanitaires, il y a le ministère de la santé. Et la coordination de tous ces ministères pose problème. Il faut une coordination concertée de toutes ces parties prenantes. Ce qui constitue un frein d'ordre institutionnel. Il doit y avoir la vulgarisation de mandats d'intervention de chaque institution. C'est ça la première catégorie des freins d'ordre institutionnel. Mmh. Oui, effectivement. Et puis, il y a une autre catégorie de freins, sont d'ordre technique, qui aborde les compétences et les capacités opérationnelles des différents acteurs, les stratégies et programmations opérationnelles, les outils et supports, la vulgarisation, monsieur les journalistes.
Vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de manuels? Quand vous évoquez tout ça, qu'est-ce que cela veut dire en des termes simples?
Oui, monsieur les journalistes, nous avons fait une tournée à travers le pays, dans des différents centres de formation professionnelle, et les constats sont amers. Et vous allez voir, vous arrivez dans un centre de formation professionnelle, sur le mur, c'est affiché formation coupe et couture, électricité, mécanique, mais vous entrez dedans, aucune machine à coudre. Voyez, monsieur le journaliste, il y a un problème de matériel didactique. La formation professionnelle ne doit pas rester théorique, c'est de la pratique. Donc on forme pour le monde du travail. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Et une autre catégorie de freins, c'est les freins d'ordre financier, humain, matériel, qui concerne l'insuffisance des ressources financières, humaines et matérielles. Les financements publics du gouvernement dans ces domaines est insignifiant. Raison pour laquelle il y a des centres de formation professionnelle à travers les pays dont les infrastructures sont vétustes, de très mauvaise qualité, les personnels moins performants, etc. Donc ce sont là les freins qu'on devra tout faire pour redorer l'image de marque de la formation professionnelle dans notre pays, monsieur le journaliste.
Voilà, ce sont là les freins qui, les problèmes identifiés qui empêchent la formation professionnelle, enseignement technique et professionnel de bien fonctionner dans notre pays. On va accueillir les auditeurs. Nous avons Justin Fongourmé, et Kachaï depuis Kanyuka. Vous avez des questions et préoccupations, appelez déjà. Le standard est ouvert, 081-890-6394.
Okapi Service. Le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Quelle est la situation de l'enseignement technique et la formation professionnelle à RDC et comment promouvoir ces filières? Justin, vous êtes à Fongourmé, mais bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et je dis bonjour à notre invité.
On vous écoute, Justin.
Voilà, j'ai une première question. Il y a des rumeurs qui circulent que la manière dont on organise les études ici chez nous au Congo, 6 ans primaire, 6 ans secondaire, 5 ans université, ainsi de suite, ce n'est pas comme on organise ailleurs et surtout sur les pays anglophones, les pays qui étaient colonisés par les Anglais et les Portugais. Là, on dit qu'il y a une très grande différence des organisations des écoles. Deuxièmement, monsieur Jody, nous venons de passer une période de la vache maigre ici au Congo. Là où il y avait des calamités, il n'y avait pas de contrôle sévère. Là où les parents manquaient à supporter leurs parents du début des études jusqu'à la fin. Il y a beaucoup d'enfants échappés de cette période qu'on venait de passer. Donc l'éducation là informelle est beaucoup nécessaire dans des milieux ruraux aussi. Parce qu'au centre là, il y a les formations par-ci, par-là, les formations en engin. Moi, d'abord, j'ai fait une formation ici à Fongo, mais dans l'auto-école de M. Emma, et je connais bien conduire le petit véhicule, et ça m'a encore ajouté un atout pour avoir un emploi, parce que à part l'anglais et l'auto-école, donc je peux être un chauffeur de la direction, je parle bien avec le patron. Alors, dans les milieux ruraux, là où nous avons quitté, quand nous quittons seulement les centres-villes, en brousse, il n'y a pas de formation, faute de quoi, on n'a pas des engins pour faire la pratique. Or, c'est très important. La manière où nous étudions ici au Congo, c'était la manière laissée par les Belges. Les Belges préparaient les gens pour aller
mais
travailler.
Mais Justin, vous étiez dans l'auto-école, il y avait quand même des voitures.
Oui, oui, il n'y avait pas de voiture et on allait demander chez quelqu'un qui avait la voiture pour faire la pratique.
Ah bon?
Oui, un paysan, à la sortie de là, il fallait voir combien est-ce qu'on nous demandait pour la caution, pour prendre seulement les volants. Et le propriétaire du véhicule était là, vous lui donnez quelque chose et vous passez au volant. Si vous n'avez pas ça, donc vous n'avez pas droit à la pratique. Troisièmement, monsieur Jody, il y a encore l'offre et la loi de l'offre et la demande. on peut terminer les formations et des formations, mais pour trouver l'emploi, nulle part. C'est ce qui décourage aussi les gens à faire les formations informelles. Il y a beaucoup de gens qui sionnent dehors, ils ont terminé les formations, et peut-être les formations aussi ne sont pas bien vérifiées par l'INPP. Les dossiers qu'on livre, nulle part on peut l'accepter.
Oui.
Tout ça entre en vigueur pour ne pas se lancer dans les éducations informelles.
Merci Justin. D'accord, on a compris. Merci Justin. Kachai, vous êtes à Kanyuka. Bonjour.
Bonjour Monsieur Daniel Kachama et bonjour à l'invité de la Radio Capi.
Alors, là-bas à Kanyuka, il y a des auto-écoles, vous allez louer aussi un véhicule ailleurs pour apprendre comment Fungurume.
Merci beaucoup Monsieur Jody. Vous savez, il y a certaines choses pour lesquelles je ne vais même pas parler parce que n'existant pas à Kanyuka, et j'ai du mal à développer certaines théories là-dessus Monsieur Jody.
Alors quel type de formation par exemple vous avez là à Kanyuka? Alors maçonnerie, cordonnerie, plomberie, coupe et couture, etc. Y a-t-il des centres de formation professionnelle?
Oui, nous n'avons qu'un centre de formation professionnelle à Kanyuka, un centre privé d'ailleurs, que l'État ne subventionne même pas, et le responsable de ce centre-là voulait fermer, parce que n'ayant pas de matériel consistant pouvant permettre aux jeunes apprenants à pouvoir s'habituer avec la pratique. Alors voilà. C'est que nous subissons comme difficulté ici, Monsieur Jody Daniel Kachama. Mais n'en déplaise, Monsieur Jody, vous savez, entre 2018 et 2019, il y avait une cacophonie, un couac entre le ministère de l'EPST,
oui,
et le ministère de la formation professionnelle.
Oui, bien sûr.
Les deux ministères se disputaient sur les traditions qui reviennent à chacun. On ne savait pas essayer de définir les attributions du ministère de l'EPST et les attributions du ministère de la formation professionnelle d'art et métier. Sur l'organisation de TENAF et par rapport à l'encadrement des inspecteurs et la paye des enseignants et la gestion des écoles irrelatives. Monsieur Jody, alors je ne sais pas actuellement. L'invité vous dit que la formation professionnelle revient à beaucoup de ministères. Il a parlé du ministère de la formation professionnelle 1, EPST 2, ministère
des affaires sociales,
ministère de la santé publique. Mais jusqu'ici, on ne sait pas qui intervient dans tel ou tel domaine et qui est compétent à signer le diplôme d'État, qui est compétent à signer le certificat de fin de cycle d'études primaires, qui est compétent d'agir en ceci ou en cela, qui peut plaider la cause pour la mécanisation des écoles non mécanisées, qui peut plaider la cause des inspecteurs parfois négligés, soit encore, qui peut contrôler bien ces inspecteurs-là, à telle enseigne qu'ils sont inspecteurs sur la ville, mais ils ne savent pas se déplacer dans le milieu rural, comme à Kanyuka par exemple. Alors, Monsieur Jody, vous comprenez que jusqu'ici, on n'a pas bien réfléchi pour l'existence de ministères pouvant avoir dans ses attributions la formation professionnelle. Le monsieur de Fungurume vous dit qu'il y a des écoles, mais on loue la voiture. Ici, à Kanyuka, mais au centre-ville de Kananga, il y a une école professionnelle que l'on appelle EPRO, laissée par les Belges. Beaucoup de Congolais actuellement qui sont ici à Kanyuka, et même ceux qui sont dans d'autres provinces, ceux qui ont fait la formation professionnelle, beaucoup sont passés par cette... Monsieur Jody, si vous y allez aujourd'hui, une école professionnelle qui n'a pas de véhicule pour la pratique de l'élève, une école professionnelle qui organise la maçonnerie, mais vous allez trouver les élèves d'apporter des niveaux. Vous avez une école professionnelle où les élèves, les ressortissants, ne sont pas à la hauteur actuellement. Faute de quoi ? D'un encadrement. Alors, bon, tout ça, ce sont des inquiétudes. Notre souci majeur est de plaider, faire les rapports au gouvernement parfois, surtout qu'il a un programme, il exécute son programme, il ne sait pas les modifier. Alors, je reviens par rapport à l'école d'application.
Bon, Kachai, rapidement, la question, parce que les autres attendent, on n'a pas beaucoup de temps. Quelle est la question que vous adressez à l'invité rapidement?
Merci beaucoup, Monsieur Jody. L'invité peut nous définir qui est compétent pour établir, pour ça, dresser les diplômes à tous les niveaux, les certificats d'études primaires, les diplômes d'État et le brevet. Ça, c'est un. De deux, est-ce que les écoles d'application sont aussi concernées par la mécanisation et l'enseignement gratuit? Troisièmement, les écoles professionnelles sont-elles subventionnées par l'État congolais? Et les inspecteurs et les enseignants de ces écoles-là ont aussi un numéro matricule
merci.
Payé par l'État
merci.
Congolais.
Bon, lui,
ils vivent des frais techniques qu'ils exigent et frais pratiques qu'ils exigent aux élèves.
Merci. D'accord. Héritier, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question par rapport à l'enseignement technique et la formation professionnelle?
Je vais poser la question. Je voudrais dire que le problème en RDC, c'est que la qualité de ce que nous avons comme sur technique. Un exemple que je veux faire, c'est lorsque on a produit un ingénieur à l'IBTP par exemple. Mais à arriver sur le terrain, ce qu'il est possible de faire, c'est regrettable. Vous avez construit une maison le lundi, le jeudi, la maison s'est écroulée. Le problème, c'est la qualité de l'enseignement. La deuxième problématique, c'est que nous n'avons pas de centre suffisant pour l'apprentissage de ce que nous avons comme technique.
D'accord, merci d'avoir appelé, monsieur.
Par exemple, à Bounia, nous n'avons même pas des écoles, auto-écoles, tout ça. Tout ce qui a rapport avec la technique.
Donc, voilà, d'accord.
C'est un problème aussi à relever. Alors, la question est de savoir comment redynamiser ce secteur, comment reformuler ce secteur pour permettre ce que nous produisions des hommes capables à faire la technique dans notre pays.
Merci. Monsieur Olivier Bangala, vous avez la parole.
Merci à tous les intervenants de la radio Capi et toutes les préoccupations soulevées par nos auditeurs, que je les salue en passant, relèvent des solutions potentielles que le gouvernement doit miser pour améliorer tant soit peu les secteurs de la formation professionnelle. Et je suis très ravi de toutes les préoccupations soulevées par-ci, par-là, qui sont reprises dans les dossiers techniques et financiers que le programme intégré de l'enseignement technique et formation professionnelle a élaboré. Donc, les différentes activités reprises dans ces documents techniques et financiers ramassent toutes les préoccupations de nos intervenants, de nos auditeurs qui venaient de les soulever tout de suite.
Par exemple, Justin de Fungurume nous a dit que dans les milieux ruraux, il n'y a pas assez d'écoles techniques, de formation professionnelle. Est-ce que vous confirmez cela?
Tout à fait, messieurs les journalistes. Il y a dans ces provinces où il y a des centres, dans des territoires, dans des milieux ruraux. Par contre, dans d'autres, il n'y en a pas. C'est ainsi que nous avons envisagé de mettre sur pied, parce que avec les moyens financiers de bord modestes, il est un peu difficile d'avoir des centres dans tous les coins et les recoins du pays. Mais quand cela ne tienne, il y a possibilité de construire les centres multidisciplinaires d'enseignement professionnel dans des grandes agglomérations ou cités, et ces centres doivent être bien équipés et avec les personnels compétents, avec les moyens financiers conséquents. C'est dans ce sens-là et seulement que ce secteur doit être un vecteur de croissance économique. Donc, la responsabilité de l'organisation de la formation professionnelle revient au gouvernement, qui doit avoir des politiques, des stratégies. Donc le gouvernement doit travailler en collaboration avec les partenaires techniques et financiers qui ont des idées innovantes que le gouvernement doit s'ouvrir pour travailler en collaboration avec eux. À ce niveau-là se situe aussi une difficulté. Le gouvernement doit accompagner les différentes structures qui œuvrent dans ce secteur partout à travers le pays.
Oui, Kacha Ideka Nyoka est revenu sur la confusion institutionnelle que vous avez évoquée tout à l'heure. Ce secteur est géré par plusieurs institutions et finalement, la confusion s'est installée. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet?
Tout à fait, monsieur le journaliste. Tel ne devrait pas même être évoqué sous d'autres cieux. Le secteur de la formation, soit de l'enseignement en général, n'est géré que par un seul ministère. Et ce ministère s'occupe de la formation technique, professionnelle, l'enseignement en général. Donc, tout ce que nous constatons, la multiplicité des institutions dans ce domaine devrait être évité en centralisant le secteur, en donnant l'attribution à un seul ministère avec des missions, des attributions bien précises. Et ce chevauchement des rôles ne devrait pas avoir lieu à l'heure actuelle. Donc tous ces secteurs, toutes ces interventions relèvent de la compétence du gouvernement central qui doit nous impliquer dans l'élaboration des programmes et des formations pour l'amélioration des curricula scolaires, etc. Donc, c'est de l'apanage et de la compétence du gouvernement central qui doit travailler en collaboration avec les multiples partenaires techniques et financiers qui sont prêts à accompagner le gouvernement dans ce secteur.
Bien, il y a également une préoccupation par rapport aux subventions. Est-ce que ces institutions de formation professionnelle sont subventionnées?
À l'heure actuelle, nous avons mené des enquêtes. Il y a des personnels qui sont non payés jusqu'à présent. Ils sont moins payés et ils travaillent dans le ventre creux. Nous avons eu leurs revendications, donc. À ce moment-là encore, ça revient au gouvernement. Et ce personnel n'est pas mis à niveau. Donc, ils doivent être mis à jour par rapport aux exigences technologiques de l'heure. Donc, on doit voir aussi comment recruter les nouveaux personnels avec de nouvelles compétences et aptitudes requises pour piloter les différents programmes dans les différents centres de formation professionnelle qui peuvent être construits ou réhabilités partout à travers le pays.
Vous avez suivi par exemple quelqu'un qui dit il a appris l'auto-école, une auto-école qui existe sans véhicule, donc il fallait louer les véhicules d'un particulier. Cela démontre qu'il y a un problème d'équipement et problème de moyens.
Tout à fait, monsieur le journaliste. Et ce problème, nous l'avons évoqué dans les dossiers techniques et financiers que nous l'avons élaborés. Donc, l'objectif est d'avoir des centres multidisciplinaires d'enseignement professionnel bien équipés. Et les écoles environnantes peuvent venir se ressourcer dans ces centres multidisciplinaires. Donc, ça doit être un lieu de référence pour les matériels didactiques, etc., pour pallier à tous ces problèmes que nous avons constatés. Et heureusement, notre auditeur l'a soulevé.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Nous avons M. Malonga de Bandunduville et Mme Evelyne de Kananga. Malonga, bonjour. M. Malonga, bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Je ne suis pas Bandundu, je suis à Kinshasa.
Ah, vous êtes plutôt à Kinshasa. On vous écoute.
Oui, ça va. Merci beaucoup. Oui, vous voyez, je dis, c'est le problème de la négligence de ces enseignements techniques. Ça s'aggrave puisque ça n'a pas d'offre d'abord. Et ce sont les autorités, elles-mêmes, qui laissent ce que ces enseignements n'aient pas de valeur dans la société. Pourquoi? Si une faculté ou une option qui se donne dans un centre, et celui qui a étudié dans une université ou bien dans un institut bien respecté, vous verrez que sur le plan professionnel, ceux qui ont fait la formation dans des centres et ceux qui ont étudié dans des universités, il y a vraiment de la différence là. C'est ce qui laisse, c'est que eux, les parents, et les enfants eux-mêmes négligent ces enseignements-là. Mais en soi, les enseignements sont bénéfiques. Et en plus, l'invité a dit là, la négligence ici, ça vient là, puisque si on est dans le champ de bataille de la recherche d'emploi, vous verrez que ce sont ceux qui seront éliminés. Et ce sont les ONG qui viennent beaucoup avec ces hommes. Mais l'État en soi ne recrute pas ce qu'il a fait. Les maçonneries, d'autres écoles techniques, et vous voyez que ça reste dans l'oubliette. En plus, aujourd'hui, vous verrez que si on veut relever la valeur de ces enseignements-là, je crois qu'il faut qu'on commence à ouvrir vraiment des universités propres. Ici nous avons l'Académie des Beaux-Arts, aussi l'IBTP, mais ceux qui ont fait ces enseignements-là sont comme s'ils n'ont rien fait, puisqu'il n'y a pas d'offre propre à eux. S'il y a d'offres, vous verrez qu'il y a seulement des petites demandes. Or, dans le champ de demande, il y a beaucoup de gens qui demandent ça. C'est ce qui fait que, en tout cas, ça n'a pas vraiment d'ampleur. Il faut que l'État cherche des voies et moyens pour donner la qualité et la valeur à ces enseignements techniques. Sinon, vous verrez que tout le monde va se verser dans ces enseignements qui laissent l'accès à la politique. Vous savez que c'est la politique qui chapeaute de tout. Ce n'est pas celui qui a fait la maçonnerie peut être ministre, non. Il va passer par où? Mais celui qui a fait la science politique, les droits, tout ça, ce sont ceux qui sont promis à des postes qui sont vraiment décidés. Vous voyez que tout ça, c'est un problème vraiment à traiter dans un conseil des ministres pour avoir vraiment une solution à ceux qui font ces enseignements-là.
Bien, merci. Merci. Madame Evelyne, bonjour, vous avez la parole.
Très bonjour, je dis bonjour à notre invité. Ce que je voulais dire, c'est que le gouvernement, par moment, se désintéresse dans ce qui se fait au sein des ONG. Vous savez, les organismes internationaux financent beaucoup les ONG. Ce que les organismes font là, ils le font au nom du gouvernement. Ça, c'est la charge du gouvernement, c'est l'argent du pays. Mais ils ne suivent pas de près. Par moment, il y a certaines ONG qui sont appuyées sur le plan matériel, tout ça, où on vous finance pour mettre sur pied un atelier de couture, il y a ceci, cela, et une bureautique, tout ça. Mais le gouvernement, pour avoir l'œil vigilant dans ce qui se fait, vous apprendrez les ONG à dire « Non, non, nous sommes rebelles, on est ceci, on est cela », alors que c'est l'argent du gouvernement. Mais que les ONG reçoivent par le truchement des organismes internationaux. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir l'œil. S'il y a financement quelque part, le gouvernement doit suivre ce qui se fait et pour que cela se fasse en bonne et due forme. Si c'est pour dans le cadre de formation, que l'on forme parce qu'il y a du matériel. Quand les internationaux appuient, c'est le matériel qui est là.
Alors, là, à Kananga, par exemple, vous pouvez citer les centres qui ont reçu des appuis en matériel, peut-être pour la coupe et couture et autres.
Il y a des ASBL qui sont financés ici. Il y a des ASBL qui sont financés. Okay. Mais néanmoins, le gouvernement provincial pouvait dire, non, voilà tel ASBL, je dois aller voir, j'ai appris que l'UNICEF a financé. J'ai appris que le MRC a financé. Je dois voir ce qui se fait. Et je dois me rendre compte de la gestion du matériel qu'on a donné là-bas. Ah, ça revient, n'est-ce pas, du devoir de notre gouvernement, parce que c'est son argent. Il est censé rembourser cet argent-là. Ils doivent ouvrir l'œil à ce niveau-là. Aussi, mon prédécesseur a parlé de la déconsidération de ceux qui font la formation professionnelle. Eh bien, c'est une vérité.
l'initiateur de l'implantation de ce ministère doit penser.
Oui, Madame Evelyne. Il y a un souci, elle n'est plus en ligne. Bien, on va accueillir Charles de Lumbashi. Bonjour Charles.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Alors nous parlons de la formation technique, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
J'aimerais un peu demander à l'invité, est-ce que ce n'est pas aussi un problème qu'il tirait? Parce que les Congolais ne rêvent que des gros titres. Et nos parents à 60 estimaient vivre comme des blancs après l'indépendance. Et en voici aujourd'hui toutes les conséquences du monde. Et puis, comment expliquer une fille qui est en coupe couture, par exemple, elle se dit déjà que j'attends mon mari. Est-ce que un tel slogan-là, ça peut encourager son environnement ou bien l'encourager elle-même au lieu d'étudier, mais elle dit que j'attends mon mari. Et à part ça, il y a aussi les formateurs dans ce domaine-là. Les formateurs ont l'habitude, nous qui sommes enseignants ici sur place, de décourager les garçons que je n'ai jamais vu un président ou bien un ministre, un gouverneur qui avait suivi la technique à quoi ça aux humanités. Alors voilà un peu un problème culturel que nous avons dans ce pays ici.
Donc les enseignants eux-mêmes qui découragent les jeunes.
Les enseignants eux-mêmes qui découragent les jeunes que je n'ai jamais vu un ministre ou bien un député qui avait suivi l'option technique aux humanités. Alors qu'est-ce que les enfants vont retenir comme message? Voilà aussi ce qu'il y a à la base.
Monsieur Olivier Bangala, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs par rapport à ces préoccupations?
C'est ce que nous avons révélé dans notre introduction, qu'il y a des préjugés et des stéréotypes qui entravent l'épanouissement de la formation professionnelle dans notre pays. Et on doit changer cet état des choses. Donc l'amélioration permanente et continuelle de ce secteur réside d'abord au niveau de mentalité des Congolais eux-mêmes. Donc nous devons changer le paradigme. L'enseignement professionnel n'est pas un enseignement de bas étage. C'est un secteur porteur de croissance économique. Vous savez, la République démocratique du Congo, un pays immensément riche en sol et au sous-sol, et la formation professionnelle dans ces différents domaines devrait permettre au gouvernement, dans les différents domaines, secteurs d'activité, d'avoir des formations appropriées. Par exemple, en minéologie, les élèves ou les étudiants doivent être bien outillés, bien équipés, une formation avec une pratique conséquente. Nous allons, par exemple, la RDC a intégré la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF. Et tous ces échanges-là internationaux nécessitent une qualité de main-d'œuvre. Parce que, messieurs les journalistes, différents intervenants, cette fois-là, la RDC doit entrer dans les conseils des nations. Qu'est-ce que nous produisons pour donner à qui? Sinon, nous resterons dépendants des importations des autres dans ce système intercontinental. Donc, cela relève encore de l'apanage du gouvernement qui doit songer à l'amélioration de ce secteur. Et on s'est dit, on ne doit pas croiser les bras. Malgré sans financement, nous devons faire quelque chose pour sauver notre nation, pour que les secteurs de formation professionnelle bénéficient effectivement au développement de notre pays.
Voilà, bien.
C'est un peu ça, messieurs les journalistes, d'une façon ramassée.
Oui.
La réponse aux différentes préoccupations
de nos intervenants.
Madame Evelyne de Kananga nous a révélé qu'il y a des ASBL qui reçoivent des financements de certaines institutions. Et dit que les gouvernements devraient contrôler. Par exemple, il y a un financement pour commencer un centre de formation, des coupes et coutures et autres. Il voudrait que les gouvernements puissent suivre également la gestion, la manière dont ces fonds, ces financements sont gérés.
Effectivement, monsieur le journaliste. Et là, à ce niveau-là, la question peut se poser. Vous savez, comme nous avons dit, il y a chevauchement des rôles, voire même l'octroi des titres, soit des documents, pour le fonctionnement de ces ASBL et tout consort. Il y a de ces ASBL qui œuvrent avec les F92, octroyés par le ministère de Justice. Il y a les personnalités juridiques, octroyées par le ministère de Justice. Il y a le ministère de formation professionnelle qui doit enregistrer aussi la structure en l'octroyant un agrément, un arrêté d'agrément, etc. Et ils relèvent alors de leur compétence de suivre les activités de ces organisations qui ont sollicité, obtenu les différents documents pour leur fonctionnement. Ça, c'est de la compétence encore du gouvernement. Vous voyez que tout ce que nous parlons gravite ou tourne autour du gouvernement central qui doit améliorer ce secteur dans tous ses aspects, messieurs les journalistes.
Voilà, on va accueillir Alain de Bounia. Bonjour Alain.
Allô, bonjour.
On vous bonjour. Écoute Alain, veuillez vous éloigner de votre radio, Alain. On a un retour à l'antenne.
Donc, j'ai rectifié un peu. Je suis Alain Amadi de Kindu, pas Bounia. Je suis à Kindu.
D'accord, vous êtes plutôt à Kindu, Alain. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la formation, à l'enseignement technique et la formation professionnelle?
Je voulais vraiment dire, par rapport à la thématique du jour, on doit quand même larguer les malentendus aux auditeurs. Dans le sens que quand on parle de l'enseignement technique et l'enseignement professionnel, parce que là, le gouvernement nous met toujours dans une gouffre. On ne se situe pas si vous êtes dans une école qui fait, par exemple, qui organise l'option coupe et couture. Là, on est dans l'enseignement technique ou soit dans l'enseignement professionnel. Donc, c'est le gouvernement qui fait cet enseignement-là ne puisse pas avoir son lieu d'être, dans le sens que ici à Kindu, nous avons des centres de formation qui œuvrent, qui manquent même les locaux, qui manquent même le matériel. Et moi, je demande qui donne les arrêtés de fonctionnement, les agréments. Et à chaque fois que ces écoles-là existent, vous allez voir le ministère là de la formation professionnelle déployer les agents pour aller retirer leur cote-part. Maintenant, la cote-part là déposée par ces centres, les écoles là, est alimentée dans le compte du gouvernement. Et si c'est le massif, le gouvernement maintenant retire la part déposée par toutes ces écoles, soit c'est tous ces centres là. Pourquoi maintenant le gouvernement maintenant ne dote pas ces écoles ou soit ces établissements à des matériels pour que cela puisse avoir le bon fonctionnement? C'est pourquoi nous avons vraiment un problème. Quelqu'un qui est faible nécessairement doit aller dans un centre de formation pour qu'il pallie maintenant sa faiblesse par rapport à...
Alain, vous voulez dire que cette formation-là est réservée seulement à ceux qui sont faibles?
Cette formation, ici d'abord, à qui doit réserver aux gens qui sont faibles, les gens qui sont délaissés. Donc, quelqu'un qui n'a pas son lieu d'être, soit à l'université, à une école moderne, on peut nécessairement l'inscrire dans une école professionnelle, soit dans un centre professionnel. Maintenant, la question est celle-ci à l'invité. Ma question est celle-ci à l'invité. Pour avoir un bon centre de formation, soit une école de technique, quelles sont les conditions à remplir qu'un entrepreneur soit le propriétaire d'un centre, c'est nécessairement à remplir pour qu'il aille...
Les documents, oui, un agrément pour faire fonctionner son centre. Merci. Monsieur Olivier, à vous la parole.
J'aimerais répondre directement à notre intervenant de Pikindou que je salue. Les conditions pour avoir soit créé un centre de formation technique, il y en a nombreuses. Et ça dépend des filières que vous voulez organiser dans ce centre. Et le ministère de la formation professionnelle récemment créé a des inspecteurs compétents et qu'il peut déployer sur terrain pour voir l'effectivité de cette structure. Donc, et puis savoir les sources, parce que la mise en place d'un centre de formation professionnelle, il y a des exigences. Vous devez prendre en charge les personnels, enseignants, formateurs dans ce centre. Vous devez assurer la sécurité des apprenants, etc. Donc, une fois certains préalables sont réunis, à ce moment-là, le ministère de tutelle, qui est le ministère de la formation professionnelle, peut octroyer une personnalité, soit un arrêté d'agrément à cette structure.
Monsieur Olivier,
il y a des activités.
Alors, oui.
Oui, monsieur Olivier.
On est presque à la fin de cette partie, de cette émission. Alors, parlez-nous de qu'est-ce que votre programme, le programme intégré de l'enseignement technique et la formation professionnelle à l'Afrique centrale, quel est votre apport dans la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle?
Oui, monsieur le journaliste, notre organisation est un établissement d'utilité publique qui vient aux rescousses aux États d'Afrique centrale francophone avec pour mission de doter ces États d'une catégorie de personnes qui œuvreront par leur contribution au développement durable de leur communauté en adéquation avec le marché de l'emploi, en promouvant un meilleur accès des apprenants, filles et garçons, à une formation de qualité, tout en assurant et augmentant une offre de main-d'œuvre qualifiée répondant aux perspectives d'emploi ou d'auto-emploi, notamment par le renforcement des capacités de certaines institutions et organisations en charge de l'enseignement technique et formation professionnelle. Donc notre structure prend en compte le développement du secteur minier, mais s'associe aussi au secteur de la construction, du commerce, de l'administration, de l'agriculture, de l'élevage, etc. En bref, le programme intégré de l'enseignement technique et formation professionnelle en Afrique centrale francophone a comme objectif, par exemple, appuyer des filières techniques et professionnelles en assurant un accès des apprenants à une formation en rapport avec leur environnement socio-économique. Autrement dit, la société et l'économie doivent trouver en enseignement technique et formation professionnelle des réponses adaptées et innovantes pour le développement inclusif et durable.
Monsieur Olivier, pour terminer, alors qu'est-ce qu'il faut faire rapidement, d'urgence, pour promouvoir ces types d'enseignement, ces filières d'enseignement dans notre pays? Est-ce qu'on peut dire qu'il revient au gouvernement de mettre des moyens seulement ou de donner les équipements pour que les choses avancent?
Messieurs les journalistes, il y a certaines actions urgentes, bien que non exhaustives, méritent de retenir l'attention du gouvernement congolais et de ses partenaires techniques et financiers en vue d'améliorer ces secteurs. Je cite par exemple une solution qu'un cadre légal et des politiques dynamiques. Donc, dynamiser les cadres légaux et réglementaires, ainsi que des politiques et des stratégies réformistes coordonnées, explicites et non ambiguës, dotées de tous les moyens de mise en œuvre, ainsi bien pour le développement des compétences que la gestion des flux migratoires. On peut affiner le mieux possible les missions liées à l'enseignement technique et formation professionnelle, et en conférer la tutelle restreinte par sous-secteur, formel, non formel, informel, pour son meilleur pilotage. Et ces stratégies réformistes auront l'avantage de tenir compte de l'éducation inclusive, égalité d'accès à la formation, migrants, travailleurs ruraux, femmes et acteurs de l'économie informelle, minorités, etc. Il y a encore une autre solution, messieurs les journalistes, qui consiste à avoir une harmonisation des outils de formation. Donc, mettre en place des instruments communs, des références pour la mise en conformité de tous les opérateurs d'emploi et de formation.
D'accord.
Les répertoires d'emploi et de métiers.
Merci, monsieur Olivier. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Je rappelle que vous êtes Olivier Bangala, directeur général du programme intégré de l'enseignement technique et la formation professionnelle en Afrique centrale francophone. Et vous êtes basé à Kisangani. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et à la prochaine.
Merci, monsieur le journaliste. Merci à tous les auditeurs de la radio Capille.